Chapitre 13. Entraîné par le courant. La semaine suivante, Maggie était de nouveau à St. Ogg's, en apparence à peu près dans la même position qu'au commencement de son séjour. Il lui était facile de passer ses matinées hors de la société de Lucy, sans que cela parût étrange, car elle devait faire à sa tante Glegg les visites qu'elle lui avait promises, et il était naturel aussi qu'elle donnât à sa mère un peu plus de son temps qu'à l'ordinaire, surtout puisqu'il fallait s'occuper des préparatifs du ménage de Tom. Mais Lucy ne voulut admettre sous aucun prétexte qu'elle s'absentât pendant les soirées. Elle devait toujours revenir de chez tante Glegg avant le dîner. « Autrement, que me resterait-il de toi ?» disait Lucy, avec une moue contristée à laquelle on ne pouvait résister. Et M. Stephen s'était sans façon invité à dîner chez M. Dean aussi souvent que possible, au lieu de l'éviter ainsi qu'il aurait dû le faire. Il commença d'abord par y aller le matin, avec la résolution de ne pas y dîner, même de ne pas y retourner dans la soirée, jusqu'à ce que Maggie fût partie. Il avait formé le plan d'un voyage par ce temps agréable du mois de juin, et les maux de tête qu'il alléguait pour excuser sa bêtise et son silence seraient un motif suffisamment plausible. Mais ce voyage ne fut pas entrepris, et le quatrième soir, il n'avait encore rien changé à ses habitudes, et remettait toute résolution à prendre au moment du départ de Maggie, car il pourrait espérer alors encore un regard ou un serrement de main. Et pourquoi pas? Il n'y avait rien à cacher entre eux. Ils connaissaient leur amour mutuel, ils s'en étaient fait l'aveu, et ils avaient renoncé l'un à l'autre. Ils allaient se séparer. L'honneur et la conscience les éloigneraient bientôt l'un de l'autre. Maggie, par un appel partant du fond de son âme, l'avait décidé. Mais cependant, il pouvait bien s'adresser un regard à travers le gouffre, avant de s'éloigner pour ne jamais se revoir que dans un avenir bien reculé, peut-être. Pendant tout ce temps, Maggie agissait avec une quiétude et même une espèce de torpeur qui contrastait tellement avec son aimable vivacité et son ardeur habituelle que Lucy en aurait été surprise si elle n'eût été convaincue que la position de Maggie, placée entre son frère et Philippe, et la pensée du triste bannissement qu'elle s'imposait, suffisait bien pour expliquer un aussi grand abattement. Mais cette torpeur cachait un violent conflit d'émotions, tel que Maggie ne l'avait encore jamais ressenti ou même pu redouter pendant toute sa vie de lutte. Il lui semblait que tout ce qu'il y avait en elle de plus mauvais s'était tenu caché jusqu'à ce moment, pour se dresser subitement, armé d'une force effrayante et toute puissante. Il y avait des instants où un cruel égoïsme semblait s'emparer d'elle. Pourquoi Lucy, pourquoi Philippe ne souffrirait-il pas? Elle aussi avait eu à souffrir pendant bien des années de sa vie. Et qui donc avait renoncé à quoi que ce fût pour elle? Et lorsque cette plénitude d'existence, l'amour, la santé, l'aisance, l'élégance, tout ce que sa nature ambitionnait d'obtenir, se trouvait à sa portée, pourquoi devait-elle y renoncer, afin qu'un autre pût en jouir, quelque autre qui peut-être en avait moins besoin qu'elle? Mais au milieu de ce terrible tumulte de passion, les anciennes voix se faisaient entendre avec un pouvoir croissant, jusqu'à ce que parfois la tempête parut apaisée. Cette existence qui lui souriait était-elle bien l'existence complète qu'elle rêvait? Où serait alors, où seraient tous les fruits de ses premières épreuves, tout le résultat de sa profonde pitié pour les chagrins de sa mère, qu'elle avait recueilli et renfermé dans son cœur pendant des années de difficultés et d'affection? Puis toutes ses divines aspirations à quelque chose de plus élevé que la simple jouissance personnelle, disposition qui avait fait la sainteté de sa vie. Elle pourrait aussi bien essayer de marcher en se liant les pieds que d'espérer jouir d'une existence qui commencerait par la destruction de la foi et de la sympathie qui étaient les plus belles manifestations de son âme. Mais si la douleur lui était pénible, qu'était-elle donc pour les autres? Ah, Dieu, préserve-moi de l'infliger, donne-moi la force de la supporter. Comment se trouvait-elle lutter contre une tentation dont elle se serait naguère crue aussi à l'abri que de la préméditation d'un crime? Dans quel odieux moment avait-elle découvert en elle un sentiment qui choquait sa véracité, son amitié, sa reconnaissance, sans qu'elle l'eût repoussé avec horreur comme une chose de mauvais augure? Et cependant, puisque cette influence étrange, douce, captivante, ne la dominait pas, ne devait pas la dominer, puisqu'elle ne devait être pour elle qu'une souffrance. Ne pouvait-elle pas, comme Stephen, espérer encore saisir quelques instants d'aveu muet avant la dernière séparation? Car lui aussi souffrait. Elle le comprenait à la fatigue maladive de ce regard qui, dès qu'il n'était pas obligé de se surveiller, retombait dans l'indifférence à l'égard de tout, excepté la possibilité de la contempler. Pouvait-elle refuser de répondre quelquefois à ce regard suppliant qui la suivait comme un doux murmure d'amour et de tristesse? Elle s'y refusa de moins en moins, jusqu'à ce qu'enfin l'intérêt de la soirée se concentra pour tous les deux quelquefois sur l'instant fugitif de ce mutuel regard. Il désirait ce moment, après lequel tout le reste leur était indifférent. Stephen, pourtant, semblait de temps en temps rechercher encore l'occasion de chanter, car c'était un moyen de parler à Maggie. Peut-être ne s'apercevait-il pas distinctement qu'il y était poussé par un secret désir, contraire à toutes les résolutions qu'il avait prises, le désir de fortifier l'empire qu'il avait sur elle. Surveillez vos propres discours. Remarquez comme ils sont guidés par les desseins dont vous vous rendez le moins compte, et vous comprendrez cette contradiction chez Stephen. Philip Wakeham faisait des visites moins fréquentes, mais parfois il venait le soir, et il s'y trouva un jour qu'ils étaient sur la pelouse au coucher du soleil, lorsque Lucy dit « Maintenant que la longue série des visites de Maggie chez Tante Glegg est terminée, je désire que nous fassions une promenade en bateau chaque soir, jusqu'à ce qu'elle parte. » Elle n'a point pu en profiter assez à cause de ses ennuyeuses absences. Et c'est ce qu'elle aime le mieux, n'est-ce pas, Maggie ? Mieux que toute autre espèce de locomotion, voulez-vous dire, j'espère, dit Philip en souriant à Maggie, assise sur une chaise basse du jardin. Autrement, elle vendrait son âme à ce batelier fantôme qui hante la flosse, seulement pour le plaisir de toujours naviguer. Aimeriez-vous à être son hôtelier, dit Lucy, parce que si vous l'aimez, vous pourrez venir avec nous et prendre une rame. Si la flosse n'était qu'un lac tranquille au lieu d'être une rivière, nous serions indépendantes de tout conducteur, car Maggie rame d'une façon admirable. Mais telle qu'est la rivière, nous sommes obligés de requérir les services de chevaliers qui ne paraissent pas les offrir avec grand empressement. Elle regarda d'un air de reproche Stephen, qui marchait de long en large en fredonnant pianissimo, « Quand l'âme est altérée, elle demande une boisson divine. » Il ne prit pas garde à cette sorte d'interpellation et continua à se tenir à part, comme il l'avait fait fréquemment pendant les dernières visites de Philip. « Vous ne paraissez pas disposé à aller sur l'eau, » dit Maggie, quand il vint s'asseoir près d'elle. « Est-ce que vous n'aimez plus à ramer, maintenant ?»« Oh, je déteste une nombreuse compagnie en bateau, » dit-il, presque avec irritation. « Je viendrai quand vous n'aurez personne. » Lucy rougit, craignant que Philip ne fût blessé. C'était chose nouvelle que d'entendre Stephen parler de cette manière. Mais il n'avait certainement pas été bien portant dernièrement. Philip rougit aussi, mais moins d'un sentiment d'offense personnelle que d'un vague soupçon que la manière d'être de Stephen n'eût quelque rapport à Maggie, qui s'était levée brusquement de sa chaise en l'entendant et s'était dirigée vers la haie de laurier pour contempler l'effet du soleil couchant sur la rivière. Comme Miss Dean ne savait pas qu'elle excluait d'autres personnes en m'invitant, dit Philip, je suis obligé de refuser. Non, certainement vous ne le ferez pas, dit Lucy, très fâchée. Je désire particulièrement votre compagnie pour demain. La marée nous favorisera à 10h30. Ce sera un temps délicieux pendant 2 heures pour ramer jusqu'à Lochrith et pour revenir à pied avant que le soleil soit trop chaud. « Et comment pouvez-vous trouver mauvais qu'on soit 4 dans un bateau ?» ajouta-t-elle en regardant Stephen. « Je n'ai rien à dire contre les gens, mais contre le nombre, » dit Stephen, qui était revenu à lui-même et était presque honteux de son impolitesse. « Si je votais pour une 4e personne, ce serait naturellement pour vous, Philip. Mais nous ne partagerons pas le plaisir d'escorter ces dames. Nous le prendrons alternativement. J'irai après-demain. » Cet incident eut pour effet d'attirer l'attention de Philip avec une nouvelle sollicitude sur Stephen et Maggie. Mais quand ils rentrèrent à la maison, on proposa de faire de la musique, et Madame Talleva et M. Dean étant occupés de leur jeu, Maggie s'assit à l'écart vers la table sur laquelle étaient les livres et l'ouvrage, ne faisant rien cependant, mais écoutant la musique avec distraction. Stephen, ayant ouvert le cahier, insista pour que Lucy et Philip chantassent un duo. Il avait déjà souvent fait cela. Mais ce jour-là, Philip, croyant deviner une double intention dans chaque mot et dans chaque regard de Stephen, le surveillait attentivement, quoique très fâché contre lui-même de la persistance de ce soupçon. Car Maggie n'avait-elle pas victorieusement détruit toute raison de la soupçonner? Et elle était la véracité personnifiée. Il était impossible de ne pas ajouter foi à ses paroles et à ses regards lors de leur dernière conversation au jardin. Stephen pouvait être fasciné par elle, qu'y avait-il de plus naturel? Mais Philip sentait qu'il serait bas à lui de vouloir s'ingérer dans ce qui devait être un pénible secret pour son ami. Toutefois, il veillait. Stephen, en s'éloignant du piano, erra lentement du côté de la table près de laquelle Maggie était assise, et feuilleta les papiers d'un air indifférent. Puis il s'assit, le dos tourné au piano, et, prenant un journal, il enfonça une main dans ses cheveux, comme s'il était absorbé par quelques lignes des nouvelles locales du courrier de Laysom. En réalité, il regardait Maggie, qui n'avait pas fait la plus légère attention à son approche. Elle se sentait toujours plus forte pour la résistance, quand Philip était présent. De même que nous pouvons mieux maîtriser notre voix dans un lieu que nous savons être sanctifié. Mais enfin, elle entendit le mot « chéri » proféré avec un triste accent de douloureuse supplication, comme celui d'un malade qui réclame une chose, comme celui d'un malade qui réclame une chose qu'on aurait dû lui donner sans qu'il la demande. Elle n'avait jamais entendu ce mot depuis les moments passés dans le sentier des Bassetts, quand Stephen l'avait dit et redit, presque aussi involontairement que si c'eût été un cri inarticulé. Philip ne put entendre aucun mot, mais il s'était placé au côté opposé du piano et put voir Maggie tressaillir, puis lever un instant les yeux vers le visage de Stephen et regarder immédiatement de son côté à lui. Il n'était pas évident pour elle que Philip l'eût observé, mais un saisissement de honte à l'idée de ce mystère lui fit quitter sa chaise et se rapprocher de sa mère pour regarder le jeu de cartes. Philip rentra peu après chez lui, livré tout à la fois à des doutes pénibles et à la crainte d'une certitude désespérante. Il redoutait de ne pouvoir maintenant repousser la conviction de quelque mutuelle entente entre Stephen et Maggie. Et pendant la moitié de la nuit, ses nerfs irritables et susceptibles furent excités presque jusqu'à la frénésie. Il ne pouvait trouver aucune explication qui pût concilier ce fait avec les actions et les paroles de Maggie. Lorsqu'enfin le besoin de croire en elle eut repris toute sa force, il ne fut pas longtemps à comprendre la vérité. Elle luttait, elle se bannissait. C'était l'explication de tout ce qu'il avait vu depuis son retour. Mais outre cette certitude, il se présentait d'autres possibilités qu'il ne fallait pas perdre de vue. Son imagination construisit toute l'histoire. Stephen était amoureux fou d'elle. Il devait le lui avoir dit. Elle l'avait repoussé et elle fuyait en hâte. Mais Stephen renoncerait-il à elle, sachant que son cœur plaidait pour lui? C'est ce que Philip se demandait avec un désespoir qui lui brisait le cœur. Quand vint le matin, Philip était trop malade pour pouvoir tenir son engagement pour la promenade en bateau. Il ne savait que décider, et dans son agitation ne pouvait que balancer entre des intentions contradictoires. Il pensait d'abord à avoir une entrevue avec Maggie et la supplier de se confier à lui. Puis ensuite, il redoutait son intervention. Ne s'était-il pas toujours fié à Maggie? Elle avait autrefois, dans sa jeune ignorance, proféré des paroles que peut-être elle déplorait, si elle les considérait toujours comme un engagement. Et avait-il aucun droit de réclamer d'elle un aveu qu'elle n'avait certainement pas eu l'intention de lui faire? Il ne s'exposerait plus à la voir jusqu'à ce qu'il fût sûr de n'agir que par pur intérêt pour elle et non par une susceptibilité égoïste. Il se décida donc à écrire un billet à Stephen et l'envoya de bonne heure par son domestique, afin de l'informer qu'il n'était pas assez bien portant pour remplir auprès de Miss Dean son engagement de la veille. il priait Stephen de l'excuser et de prendre sa place. Lucy avait arrangé un plan charmant qui la rendait très contente du refus de Stephen. Elle découvrit que son père devait se rendre en voiture à Lindum ce matin-là à 10 heures. Lindum était justement l'endroit où il désirait aller pour des achats importants, qui ne pouvaient sous aucun prétexte être renvoyés à une autre occasion. Et tante Taleva aussi devait y venir, parce que quelques-uns de ses achats la concernaient. « Tu auras justement de même ta promenade en bateau, tu sais, » dit-elle à Maggie, quand elles sortirent de la salle du déjeuner et remontèrent ensemble à leur chambre. « Philippe sera ici à 10h30, et c'est une délicieuse matinée. » « Allons, pas un mot d'objection, chère créature dolente. À quoi sert que je sois la fée ta marraine si tu t'opposes à tous les miracles que je fais pour toi? Ne t'inquiète pas du vénérable cousin Tom. Tu peux bien lui désobéir un peu. » Maggie ne persista pas dans ses objections. Elle fut presque satisfaite de cet arrangement, car peut-être que se retrouver seule avec Philippe lui rendrait quelque force et quelque calme. Ce serait comme un retour aux scènes d'une vie plus tranquille, dont les luttes même étaient du repos, comparées au tumulte continuel du présent. Elle se prépara pour cette promenade, et à 10h30, elle attendait assise au salon. Le coup de sonnette résonna ponctuellement, et elle pensait avec un plaisir triste et affectueux à la surprise qu'aurait Philippe, en trouvant qu'il devait être seul avec elle, quand elle distingua dans le vestibule un pas ferme et rapide qui n'était certainement pas celui de Philippe. La porte s'ouvrit et Stephen Guest entra. Dans le premier moment, ils furent tous deux trop agités pour parler, car Stephen avait appris du domestique que les autres maîtres étaient partis. Maggie s'était subitement levée et se rassit avec un violent battement de cœur. Stephen, rejetant son chapeau et ses gants, vint s'asseoir près d'elle en silence. Elle pensait que Philippe allait venir, et avec un grand effort, car elle tremblait visiblement, elle se leva pour prendre une chaise plus éloignée. « Il ne vient pas, » dit Stephen à voix basse. « C'est moi qui prends sa place dans le bateau. »« Oh, nous ne pouvons pas partir, » dit Maggie, retombant sur sa chaise. Lucy ne s'y attendait pas. Elle serait blessée. « Pourquoi Philippe ne vient-il pas ?»« Il est malade et m'a prié de venir à sa place. » »« Lucy est allée à Lindum, » dit Maggie, en ôtant son chapeau avec précipitation et en tremblant. « Nous ne devons pas partir. »« Très bien, » dit Stephen, rêveur, en la regardant, comme elle appuyait son bras sur le dossier de sa chaise. « Alors nous resterons ici. » Il plongeait son regard dans ses yeux si profonds, mystérieux comme la nuit à la lueur des étoiles, et cependant si timidement aimant. Maggie resta immobile pendant quelques instants, quelques minutes peut-être, jusqu'à ce que son malheureux tremblement eût cessé et qu'une chaude rougeur fût revenue à ses joues. « Le batelier attend. Il a pris les coussins, » dit-elle. « Voulez-vous aller l'avertir ?»« Que dois-je lui dire ?» reprit Stephen à voix basse, les yeux fixés maintenant sur les lèvres de Maggie, qui ne fit point de réponse. « Partons, » murmura Stephen d'un ton suppliant, en lui prenant la main pour la faire lever. « Nous ne serons pas longtemps ensemble. » Et ils partirent. Maggie sentit qu'elle était conduite au bas du jardin, en passant au milieu des roses, qu'elle était soutenue avec fermeté et tendresse pour entrer dans le bateau, qu'avec une douce sollicitude, on plaçait un coussin sous ses pieds, qu'on la protégeait de son parasol qu'elle avait oublié d'ouvrir. Tout cela sous l'influence puissante d'une présence qui l'entraînait sans qu'il y eût aucun acte de sa propre volonté, comme la force qui vous pénètre sous l'influence excitante d'un tonique. Elle ne se rendait compte de rien. La mémoire était absente. Ils glissèrent rapidement sur l'eau, Stephen ramant, aidé de la marée descendante. Ils passèrent devant les arbres et les maisons de Tofton, entre des champs silencieux et des pâturages éclairés du soleil, et semblant embellis d'une joie naturelle qui n'était point contraire à la leur. La brise matinale dans sa force, la cadence délicieuse des rames, les fragments de chants d'oiseaux exprimant à leur passage une plénitude de bonheur, le doux abandon du sentiment de leurs deux existences unies en une seule par ce regard sérieux et constant qui ne redoute pas la contrainte, ces sensations variées remplirent seules leurs âmes pendant la première heure. Quelques exclamations d'amour, douces, soumises, languissantes, échappaient de temps en temps à Stephen, tandis qu'il ramait nonchalamment. C'était la seule parole prononcée. Que sont des mots, sinon une introduction à la pensée? Et la pensée n'existait pas au milieu du brouillard enchanté qui les enveloppait. Elle n'appartient qu'au passé et à l'avenir. Il jouissait du présent sans s'en rendre compte. Maggie reconnaissait confusément les rives devant lesquelles il passait et ne cherchait point à reconnaître les villages. Elle savait qu'il devrait en rencontrer plusieurs avant d'atteindre Lacrith, où il s'arrêtait toujours et laissait le bateau. Elle avait de tout temps été si sujette à des accès de distraction qu'il était facile que les indications de la route passassent inaperçues. Mais enfin Stephen, qui avait ramé de plus en plus mollement, cessa de le faire, posa les rames, croisa les bras et regarda l'eau, comme s'il surveillait le degré de rapidité avec lequel le bateau glissait sans son secours. Ce changement soudain réveilla Maggie de sa rêverie. Elle regarda les champs qui s'étendaient au loin, les rivages rapprochés, et pensa qu'il lui était inconnu. Une terrible alarme s'empara d'elle. « Oh, avons-nous passé Lacrith, où nous devions nous arrêter ?» s'écria-t-elle, en regardant en arrière, pour voir si cet endroit était encore en vue. On ne voyait aucun village. Elle se retourna avec un regard désespéré d'interrogation vers Stephen. Il continua à examiner l'eau et dit d'un ton régulier, rêveur et distrait, « Oui, de beaucoup. »« Oh, que ferais-je ? » s'écria Maggie dans son agonie. « Nous ne pourrons regagner la maison de plusieurs heures. Et Lucy, oh Dieu, viens à mon aide !» Elle joignit les mains et éclata en sanglots comme un enfant épouvanté. Elle ne songeait qu'à rejoindre Lucy, à voir son regard affligé de surprise et de doute, peut-être aussi de justes reproches. Stephen se leva, s'assit près d'elle et abaissa doucement ses mains jointes. « Maggie, dit-il du ton profond d'une lente décision, ne retournons jamais à la maison, avant du moins que personne puisse nous séparer, avant que nous soyons mariés. » Cet accent inaccoutumé, ces mots terrifiants arrêtèrent les sanglots de Maggie. Elle s'assit immobile, étonnée, comme si Stephen eût pu voir quelque possibilité de tout changer et d'annuler les faits antérieurs. « Voyez, Maggie, comme tout est venu sans que nous le cherchions, malgré tous nos efforts. Nous n'avions jamais pensé à nous retrouver seuls ensemble. D'autres ont tout fait. Voyez comme la marée nous emporte loin de tous ces liens contre nature dont nous avons essayé de nous entourer, et essayé en vain. La marée nous mènera à Torbay, où nous pourrons aborder et prendre une voiture qui nous emportera rapidement à York et de là en Écosse, et nous ne nous arrêterons pas un instant jusqu'à ce que nous ayons contracté des liens que la mort seule puisse rompre. C'est la seule chose convenable, chérie. C'est la seule manière d'échapper à ce malheureux malentendu. Tout a concouru à nous y amener. Nous n'avons rien arrangé, nous n'avons pensé à rien nous-mêmes. » Stephen parlait avec une profonde et vive instance. Maggie écoutait, passant de son étonnement soudain au vif désir de croire que la marée était cause de tout et qu'ainsi elle pouvait sans remords s'abandonner à ce courant rapide et silencieux. Mais au travers de cette influence insinuante, vint se poser l'ombre terrible de ses pensées antérieures. Et l'horrible conviction soudaine que maintenant, le redoutable moment de l'enivrement fatal approchait, suscita en elle des forces de résistance et de colère contre Stephen. « Laissez-moi, » dit-elle d'un ton agité, lui lançant un regard de courroux et cherchant à dégager ses mains. « Vous avez voulu m'ôter toute possibilité de choisir. Vous saviez que nous étions venus trop loin. Vous avez osé profiter de mon manque d'attention. Il est indigne d'un homme d'honneur de m'avoir placé dans cette position. » Blessé par ce reproche, il abandonna ses mains, retourna à sa première place et se croisa les bras dans une sorte de désespoir de la difficulté que lui présentaient les paroles de Maggie. Si elle ne voulait pas consentir à l'écouter, il devait se maudire de l'avoir amenée à cette situation embarrassante. Mais il ne pouvait supporter le reproche qu'elle lui faisait, et la pensée qu'elle put croire qu'il avait agi si indignement envers elle était pire que de la perdre. Enfin, il dit d'un ton de rage comprimé, « Je n'ai remarqué que nous avions dépassé Lacrith qu'en arrivant au village suivant, et c'est alors qu'il m'est venu à l'esprit de continuer. Je ne puis me justifier de ne pas vous l'avoir dit. J'aurais dû le faire. C'est assez pour que je sois haï de vous, puisque vous ne m'aimez pas suffisamment pour que tout le reste vous soit indifférent. C'est ainsi que moi je vous aime. Dois-je arrêter le bateau et essayer de vous déposer ici? Je dirai à Lucy que j'ai eu un accès de démence et que vous me haïssiez, et vous serez délivré de moi pour toujours. Personne ne pourra vous blâmer de ce que je me suis conduit à votre égard d'une manière impardonnable. Maggie fut paralysée. Il lui était plus facile de résister à un plaidoyer de Stephen qu'à ce tableau qu'il présentait de ce que lui souffrirait, tandis qu'elle serait excusée. Plus facile de se détourner de ses regards de tendresse que de ceux exprimant un malheur qui faisait de lui le seul coupable, en la mettant à l'abri du reproche. Il venait d'éveiller en elle un sentiment en vertu duquel les raisons qui avaient d'abord fait parler sa conscience ne lui paraissaient presque plus que l'intérêt personnel. Le feu d'indignation de ses yeux s'apaisa, et elle commença à regarder Stephen avec une timide détresse. Comment lui reprocher de s'être portée subitement à une offense irrévocable, elle qui avait été si faible? « Comme si je ne devais pas m'accuser tout autant que vous de ce qui est arrivé, » dit-elle, avec le ton d'un reproche d'une autre espèce, celui de l'amour demandant plus de confiance. L'expression de la souffrance de Stephen était plus dangereuse pour Maggie que celle de son amour, parce qu'elle se confondait avec les droits que tout être souffrant avait à sa sympathie, droits qui avaient toujours formé la base morale de sa résistance. Il comprit le regard et la voix de Maggie. Ce fut comme si le ciel se rouvrait pour lui. Il se rapprocha, lui prit la main, et, appuyant son coude sur le bord du bateau, il garda le silence. Il craignait d'ajouter une parole. Il craignait de faire un mouvement qui pût ramener un reproche ou un refus. La vie était suspendue à un consentement, sans lequel il n'y aurait pour lui que malheur sans espoir. Ils suivirent ainsi le courant, se réfugiant dans le silence, redoutant l'un et l'autre que leurs sentiments fussent de nouveau en opposition, jusqu'à ce qu'ils s'aperçussent que les nuages s'étaient amoncelés, que la fraîcheur d'abord à peine sensible de la brise augmentait peu à peu, et que l'aspect de la journée était changé. « Vous avez froid, Maggie, dans ce léger costume. Permettez-moi de remonter votre manteau sur vos épaules. Levez-vous un instant, chérie. » Maggie obéit. Elle éprouvait un charme inexprimable, à s'entendre dire ce qu'il fallait faire et à n'avoir qu'à obéir. Elle se rassit couverte du manteau, et Stephen reprit ses rames et se hâta, car il fallait tâcher d'arriver à Torbay aussi vite que possible. Maggie avait à peine la conscience d'avoir dit ou fait quelque chose de décisif. Toute concession est suivie de la perception intime d'un calme plus facile que la résistance. C'est le sommeil partiel de la pensée. C'est l'anéantissement de notre volonté devant celle d'un autre. Tout autour d'elle semblait la porter à l'abandon de sa volonté. Ce monotone bercement du bateau glissant sur l'eau depuis plus de 4 heures, la fatigue, l'épuisement d'esprit, la répulsion qu'éprouvaient ses membres engourdis contre l'impraticable difficulté de quitter le bateau à cette distance inconnue de la maison et de marcher pendant bien des milles. Tout concourait à la soumettre plus complètement à ce charme puissant et mystérieux qui semblait faire d'une dernière séparation d'avec Stephen la mort de toute joie, qui faisait de la pensée de le navrer comme l'effroi de l'approche d'un instrument de torture devant lequel recule le courage. Puis il y avait encore le bonheur présent d'être avec lui, qui était assez grand pour absorber toute son énergie languissante. Bientôt Stephen remarqua un bâtiment qui les suivait. D'autres navires, entre autres le bateau à vapeur de Matport, les avait dépassés au commencement de la marée. Mais pendant la dernière heure, il n'en avait point vu. Il regardait de plus en plus attentivement ce bateau, comme s'il lui suggérait une nouvelle pensée. Puis il se retourna vers Maggie avec hésitation. « Maggie, chérie, dit-il enfin, si ce bâtiment allait à Matport ou à quelque autre endroit convenable sur la côte nord, le meilleur parti serait de demander qu'on nous reçût à bord, et il se peut qu'il pleuve bientôt. Ce pourrait être une affaire périlleuse que d'arriver à Torbay dans notre petit bateau. Celui-là n'est qu'un bâtiment marchand, mais je crois que vous pourrez y être assez confortablement. Nous prendrons les coussins d'ici. C'est vraiment ce que nous avons de mieux à faire. » Ils seront charmés de nous recevoir à bord. J'ai suffisamment d'argent sur moi, je puis les bien payer. » Le cœur de Maggie commença à battre avec un redoublement d'alarme à cette nouvelle proposition. Mais elle se tut. Toute décision semblait également difficile à prendre. Stephen héla le bâtiment. C'était un bateau hollandais se rendant à Matport, comme l'en informa le pilote anglais. Et si ce vent tenait, on y serait en moins de 2 jours. « Nous avons été entraînés trop loin avec notre bateau, » dit Stephen. « Je cherchais à arriver à Torbay. Mais j'ai peur du temps, et cette dame, ma femme, sera épuisée de fatigue et de faim. Prenez-nous à bord, voulez-vous, et remorquez le bateau, je vous paierai bien. » Maggie, vraiment défaillante et tremblant maintenant de crainte, fut prise à bord et devint un intéressant objet d'admiration pour les Hollandais qui l'examinaient. Le pilote craignait que la dame ne passât un triste temps à bord, car il n'avait pas d'arrangement commode pour des passagers si entièrement inattendus, point de cabine plus grande qu'un banc d'église à l'ancienne mode. Mais au moins ils avaient la propreté hollandaise, qui fait supporter tous les autres inconvénients. Et les coussins du bateau furent complaisamment étendus sur l'arrière, afin que Maggie pût s'y reposer. Mais le premier changement dont elle eut besoin fut de marcher le long du pont en s'appuyant sur Stephen, dont la force la soutenait. Puis elle prit quelque nourriture et se reposa tranquillement sur les coussins avec la satisfaisante sensation qu'aucune nouvelle résolution ne pouvait être prise ce jour-là. Stephen s'assit près d'elle, la main dans la sienne. Ils ne pouvaient se parler qu'à voix basse et se regarder que de temps en temps, car la curiosité des matelots était excitée à l'égard de ces jeunes et beaux étrangers. Mais Stephen jouissait de son bonheur. Toute pensée ou inquiétude sur l'avenir était repoussée par la certitude que Maggie serait à lui. Le fossé était franchi. Stephen avait été torturé par les scrupules, il avait violemment combattu contre un entraînement tout-puissant. Il avait hésité, mais maintenant le repentir était impossible. Il murmurait son bonheur par des phrases entrecoupées, disant son adoration, sa tendresse, sa croyance que leur vie serait le ciel, que la présence de Maggie serait pour lui le ravissement de toutes ses journées, que satisfaire les moindres désirs qu'elle pourrait témoigner serait plus précieux pour lui que tout autre bonheur, que tout lui serait facile à cause d'elle, excepté de s'en séparer, et maintenant il ne faudrait plus se séparer. Il lui appartiendrait pour toujours. Tout ce qu'il possédait était à elle, n'avait de valeur que parce que c'était à elle. De telles paroles, proférée à voix basse et interrompue, cette voix qui la première a remué les fibres d'une jeune passion, n'ont qu'un bien faible pouvoir sur les esprits expérimentés qui en sont à distance. Mais pour la pauvre Maggie, qui en était si rapprochée, elles étaient comme de l'ambroisie offerte à des lèvres altérées. Il y avait, il devait donc y avoir pour les mortels d'ici-bas, une vie qui n'était pas froide et pénible, où l'affection n'entraînait plus le sacrifice personnel. Les phrases passionnées de Stephen rendaient la vision d'une semblable vie plus présente à Maggie qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. Et la vision, pour le moment, excluait toutes les réalités, excepté le reflet des rayons d'un soleil couchant qui se brisait sur les flots et se mêlait aux rayons plus fantastiques du bonheur promis. Toutes, excepté la main qui pressait la sienne, la voix qui lui parlait, et les yeux qui la regardaient avec un amour grave et inexprimable. Maintenant, on ne craignait plus la pluie. Les nuages fuyaient et s'entassaient à l'horizon, formant un grand rempart pourpre, et ces fantastiques îles aux brillantes couleurs de cette région mystérieuse que le soleil couchant nous révèle. Il fut décidé que Maggie passerait la nuit sur le pont. Cela valait mieux que de descendre. Et elle fut chaudement enveloppée de tout ce que le bateau put fournir pour cela. Il était encore de bonne heure, quand les fatigues de la journée amenèrent chez Maggie le désir d'un complet repos, et elle appuya sa tête, regardant la faible lueur mourante à l'horizon, et l'étoile du soir qui devenait de plus en plus brillante. Puis elle porta les yeux sur Stephen, qui était encore assis auprès d'elle. Derrière toutes les délicieuses visions de ces dernières heures qui s'étaient écoulées pour elle comme un doux songe où elle était passive, était la vague conscience intime que cet état était passager, et que le lendemain devait ramener son ancienne vie de lutte. qu'il y avait des pensées qui se vengeraient bientôt de son oubli. Mais pour le moment, rien n'était distinct pour elle, bercée qu'elle était par ce doux rêve qui l'enveloppait encore, par ces fantastiques tableaux qui se fondaient et s'évanouissaient comme les nuages à l'Occident.